Bonjour tout le monde, bienvenue chez Perspective de médiation. C'est un épisode aujourd'hui avec une personnalité de la médiation en France et bien au-delà. C'est Alain Ducasse. Alain Ducasse qui a beaucoup travaillé, qui a écrit un livre sur la médiation agile. Mais que veut dire agile, hein? Est-ce que toute médiation ne serait-elle pas agile? On va en discuter bien sûr avec Alain. Il organise aussi les palabres de la médiation une fois par mois en ligne. Je vous invite vivement d'y participer une fois ou plusieurs fois. Et donc on va discuter avec lui aujourd'hui de la médiation agile justement. Que veut dire agile hein, en matière de médiation? Et une chose que je peux vous dire en spoiler, c'est qu'il parle des quatre vents de la médiation, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. À tout à l'heure, restez connectés.
Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gimparly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire, cela nous aide. Merci.
Bonjour, bienvenue tout le monde. Salam Alain.
Bonjour.
Comment va?
Bien, bien. Heureux de te revoir.
Merci. Partagé. Donc, on est aujourd'hui sur Perspective de médiation avec Alain Ducasse, qui est médiateur connu et reconnu. On va savoir un peu plus sur toi tout à l'heure. Et puis, on va surtout parler de la médiation agile. C'est d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut appeler ça une méthode, une approche, une philosophie, mais tu nous le diras. La médiation agile. Et je me réjouis beaucoup de parler de la médiation agile avec toi et aussi de toi, ton parcours et de pouvoir bénéficier de ton expérience et des propositions et puis tout ce que tu peux partager avec les personnes qui nous écoutent. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi? Qui est toi? Qui est Alain Ducasse?
Volontiers. Ben moi, je suis d'abord savoyard de Morzine. Et donc, j'ai à peu près 70 ans. Je suis marié, j'ai 6 enfants.
À peu près, t'as arrêté de compter. Ouais.
Non, à peu près, c'était pas là-dessus. Et 3 petites filles.
Non, pas les petites filles, je parle de l'âge.
J'ai compris. Ah non, à peu près 70 ans, c'est que je n'ai pas encore tout à fait.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, j'ai fait l'école polytechnique à Paris, je suis ingénieur. Ouais. Je suis venu... Ensuite, j'ai travaillé 40 ans dans l'administration en France, un peu partout. Mmh. Et plutôt dans le domaine du développement économique, qui était mon métier de base, mais aussi l'environnement et le numérique et l'international. J'ai beaucoup travaillé en Afrique. Mmh. Et j'ai quitté l'administration il y a 5-6 ans et mmh. Comme métier, j'ai parlé de catalyseur de changement. Ouais. Tout d'abord, comme consultant, j'ai beaucoup travaillé pour les gouvernements africains pour les aider à bâtir une stratégie numérique et à s'y mettre. Et puis, les jeunes sont meilleurs que moi dans le numérique, ça va vite. Mais l'aspect d'appropriation des technologies, comme de l'appropriation de beaucoup de choses, le changement, ça passe par les changements extérieurs, mais beaucoup par les changements intérieurs. Et là, l'âge et j'espère un peu la sagesse sont des atouts par rapport aux jeunes qui sont meilleurs en techno. Et donc, je suis devenu aussi médiateur et coach, et formateur. C'est cet ensemble que j'appelle catalyseur de changement pour aider les gens au niveau du savoir, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être.
Ouais. J'allais dire, on parle de changement dans les technologies d'information, etc. On a l'impression que c'est du très technique, mais tout type de changement, ça passe d'abord par l'humain.
Absolument.
Dans les entreprises, on voit que tout ce qui est changement, d'abord, les résistances ne sont pas techniques, les résistances sont humaines, et puis les difficultés aussi. Ouais. Donc, je pense effectivement être un bon coach ou un bon médiateur même pour ce type de changement d'entreprise, c'est peut-être la moitié de l'affaire, hein, plus que le côté technique, ou autant que le côté technique, on va dire.
Parfait.
Donc, voilà, tu as aussi, si je comprends bien, une formation plutôt technique à la base, c'est ça?
Oui, j'ai une formation d'ingénieur.
Okay.
J'ai beaucoup accompagné j'ai travaillé pendant 10 ans pour aider les entreprises sur leurs projets d'innovation. Donc, on n'est pas loin non plus de la conduite du changement. Et puis après, donc, sur les questions de stratégie numérique des États, j'ai travaillé auprès du Premier ministre en France. Et j'ai travaillé longtemps au ministère de l'Économie et des Finances.
Et comment c'est venu? Parce que, donc, en tant qu'ingénieur à la base, plutôt, si j'ose dire, moi aussi, je suis ingénieur à la base. c'est plutôt cartésien, si on veut dire, technique. Et puis là, tu travailles sur les humains et avec les humains. Comment c'est venu?
C'est passé par le domaine intermédiaire, c'était le droit. Dans mon métier, j'étais donc ingénieur. J'ai beaucoup travaillé dans les télécoms, dans l'énergie. Mais je me suis rendu compte que mon métier, c'était beaucoup de droit. Il fallait écrire des décrets, il fallait trouver des positions. Donc, j'ai fait pas mal de droit. J'ai même fait une thèse de droit à un moment donné. Et j'ai découvert donc la médiation au niveau théorique comme un des moyens, les méthodes alternatives de résolution des conflits. Ça, c'est le côté, j'allais dire, extérieur. Et au côté intérieur, j'étais moi-même dans un groupe où il y avait des tensions. Et petit à petit, je me suis formé sur la transformation des conflits. Donc là, c'est plus des questions intérieures, des questions de gestion des émotions, d'accueil des émotions, de maturité émotionnelle, et petit à petit d'intervention comme tiers, de facilitateur, de médiateur. C'est comme ça qu'est venu mon métier. Et j'étais ingénieur des mines, on parle dans l'administration, donc on parle de mineur. Et je dirais que je suis passé du rôle de mineur au rôle de démineur.
Donc mineur, pas dans le sens adolescent, dans le sens qui pose des mines, dans ce sens-là. Ouais.
Non, dans le sens des... Ben, c'était les ingénieurs des mines, c'est eux qui ont travaillé sur les carrières en France.
Mineur dans ce sens, oui, ok.
Maintenant, là, ils ont des rôles dans l'administration française.
Et puis des mineurs, donc là, tu supprimes les... Là, on n'est plus sur les mines... C'est quoi, les mines antipersonnelles sur les relations sociales ou bien?
Voilà, c'est un peu ça. On ne les supprime pas, on les transforme. On les aide à passer d'un autre à l'autre, mais si on veut supprimer l'autre, on reste dans la guerre, on n'est pas dans le déminage.
C'est ça. Donc, c'est un point important pour toi. C'est quoi la différence entre résoudre ou même supprimer un conflit et le transformer? Comment tu définis la transformation?
Ben là, en fait, ça nous amène aux quatre étapes du conflit. Une de mes sources en formation, c'est Arnold Mindel, qui a fondé aux États-Unis, donc, d'ailleurs qui a vécu en Suisse, qui était auprès de Jung. Il était un élève de Jung. C'est un physicien à l'origine, physicien quantique au MIT. Formation de psychanalyste avec Jung, et puis des formations aussi plus de méditation, de Tao et compagnie. Et il a travaillé beaucoup avec des gens dans le coma. Et donc, il a beaucoup travaillé sur des conflits, mais d'une manière assez originale. Il travaille beaucoup sur les conflits sociaux. Il a travaillé sur l'état de médiation internationale entre des États. Et lui, il voit les conflits avec quatre étapes. Une première étape que j'appelais avant conflit latent, c'est des conflits qui ne sont pas encore exprimés, qui sont là. Ça peut se voir dans des entreprises quand il y a une mauvaise ambiance, quand les gens sont... Ils font de l'absentéisme. Enfin, il y a plein de symptômes qui montrent qu'il y a un malaise.
Conflit froid.
Il n'y a rien d'exprimé.
C'est ce qu'on appelle aussi les conflits froids ou pas forcément.
Voilà, c'est les conflits froids. Ouais. Et donc, dans certains cas, bah, c'est bien qu'ils restent comme ça et puis ils se résolvent tout seuls. Dans d'autres cas, c'est important, et je suis un peu spécialiste là-dessus, où on dit mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mm-hmm. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui ne peut pas se résoudre et qui fait qu'il y a, une atmosphère qui est comme... un temps lourd, où il y a une situation pourrie, et ben à un moment donné, on la fait sortir en conflit, ou elle sort toute seule en conflit de la part d'un. Donc là, on est dans la phase 2 du conflit, c'est la confrontation. Cette confrontation où, qui peut se passer de façon parfois assez violente, donc il faut essayer de maîtriser bien sûr une violence physique, mais c'est l'endroit où chacun peut exprimer son point de vue, qui pour le coup va être différent de celui de l'autre. Et donc, la tendance, c'est de dire à l'autre qu'il a tort. La CNV nous apprend à dire plus « voilà ma position » sans forcément dire « l'autre a tort ». Et donc, en tout cas, c'est la phase de confrontation. Et ce que m'a beaucoup appris Mindel, c'est qu'en fait, cette phase est indispensable. Moi, j'avais plutôt tendance à fuir un peu le conflit, donc d'essayer de trouver tout de suite un compromis. mais ça, ça ne permet pas de le résoudre. C'est important de défendre sa position, même si on commence à comprendre l'autre, d'aller vraiment jusqu'au bout, de dire si on a un point de vue différent, c'est qu'on a une bonne raison d'avoir un point de vue différent et de la défendre.
C'est
donc ça, c'est la phase de confrontation. Et puis, quand cette phrase, si cette phase a vraiment bien lieu, à un moment donné, chacun comprend que sa position, c'est la position de l'autre est différente, mais il peut comprendre que l'autre ait un autre point de vue que lui. Donc, c'est la phase du dialogue. Et là, c'est une phase de compréhension réciproque où on est capable de dire « Ok, on n'est pas d'accord, mais en tant que personne, on peut se respecter parce qu'on peut comprendre que l'autre vive autre chose. Mmh. » Donc, c'est cette phase 3, j'allais dire, de dialogue et de compréhension. Et puis, la phase 4, quand elle arrive, c'est en médiation, c'est après le point de bascule. Une fois que les gens se sont compris, ils peuvent, en médiation, on dit trouver des solutions et ou faire en sorte que les gens soient d'accord sur un avenir différent. Ça peut être aussi tout simplement qu'on a appris à vivre avec les deux polarités ensemble qui s'opposent, mais qui sont deux faces de la même médaille. Et donc, c'est une phase où on arrive à dépasser le conflit et à vivre avec, quelque part, à vivre à côté de son voisin avec qui on n'est pas d'accord ou à côté de son conjoint avec qui on a des moments de tension, mais on continue à vivre ensemble parce qu'on sait qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients.
Et ça, c'est donc, tu as parlé de Mindel. Tu as un livre ou quelque chose à recommander un peu, si quelqu'un veut aller plus loin?
Oui, il y a trois principaux livres. Le principal livre en anglais, c'est Sitting in the Fire. Il est édité en français, il s'appelle S'asseoir au cœur du feu. C'est du nom. Sinon, il y a deux autres livres qui sont sortis en français récemment. Il y a Introduction à la pratique du process work et récemment L'art martial du leadership. Tous les trois édités chez Duno Interédition. Et puis pour les médiateurs, donc la médiation agile, j'explique comment utiliser le process work en médiation. Je vais lancer des formations prochainement, probablement à Strasbourg, à Paris et à Lyon.
D'accord, donc tu as transformé son approche pour la médiation, pour l'utiliser, ça c'est intéressant. Hein.
Donc Mindel a beaucoup travaillé sur les conflits, ça peut être des conflits sociaux dans les quartiers aux États-Unis, sur le racisme, sur les conflits de genre, enfin des toutes sortes de conflits, même les conflits internes. Quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est qu'il y a un conflit entre deux parties de la personne. Donc, ils ont travaillé dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et moi, je l'ai utilisé plus en disant, comme j'étais déjà médiateur, en quoi le process work, qu'on appelle aussi démocratie profonde, peut être utilisé en médiation. Je dois dire que je l'utilise de deux manières, à la fois comme posture. Ce n'est pas une posture de médiateur, mais de facilitateur. Pour le coup, elle est assez différente de celle de médiateur. Et deuxièmement, on l'utilise beaucoup en conflit de groupe, parce que j'ai pas appris tellement de choses en médiation sur les conflits de groupe, et le process work est une des méthodes extrêmement puissantes.
Ouais, alors les médiations de groupe, ouais, moi ce que je vois de façon évidente comme différence, c'est le processus, tu vois, de qui avec qui, à quel moment, au niveau du comment structurer un processus, mais c'est vrai sur peut-être le contenu à travailler, la médiation, il y a peut-être d'autres outils qui sont enrichissants pour ça. Comme toujours, moi, je vois toujours la médiation comme une sorte de socle de base sur lequel on rajoute, on a déjà peut-être d'autres expériences d'ailleurs, ou voilà, ce qu'on apprend au cours de la vie, et puis c'est un peu comme un puzzle, la médiation, c'est un peu comme la pièce centrale, et puis on rajoute. Puis là, tu as pris aussi le modèle de Mindel comme pièce centrale du puzzle. Donc, est-ce qu'on peut dire c'est le... Non, tu voulais réagir?
Non, déjà, je vais réagir en disant que tu viens de donner ma définition de la médiation agile. C'est un peu un puzzle. On a la base qui est la médiation classique avec la route Fiotak et tout. Et puis, quand on a des situations difficiles, on rajoute. Mais c'est justement pour s'adapter aux cas difficiles. Et c'est ça, la médiation agile. L'art de s'adapter à des cas difficiles avec l'outil de base de la médiation et plein d'autres outils et d'expériences qu'on peut rajouter en fonction des besoins. Ça, c'est pour moi, c'est ça la médiation agile. Donc, pour moi, j'ai notamment rajouté le puzzle de Mindel et du process work, mais beaucoup d'autres.
Et est-ce que les quatre phases que tu as décrites, donc conflit latent, confrontation, dialogue, et puis ensuite agir ou résoudre comme quatrième, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est les phases, c'est le modèle de développement, c'est ça le process work? Si tu compares avec les parfois 3, parfois 5 phases de médiation, ça remplacerait cela?
Non, ça ne remplace pas. Ça permet de savoir où on en est. Ça permet de savoir où on en est. Tu parlais de processus. Pour Mindel, processeur, ça veut dire, en fait, c'était là, au départ, le nom, c'était psychologie orientée processus. Donc, ils sont plus du côté de la psychologie et de la thérapie que de la médiation au départ, mais peu importe. En tout cas, pour lui, tout est processus. Et donc, le rôle de facilitateur par rapport à un médiateur, enfin, c'est le facilitateur en process work, c'est une forme de médiation où on ne va pas chercher un résultat. On va suivre l'évolution des gens. Pour des gens, ça peut prendre quelques jours, ça peut se faire. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs années. Et ce n'est pas nous qui forçons les choses. On suit le processus, on suit l'évolution, on aide, on éclaire. Mais donc, le process work ne va pas pour moi, j'ai découvert ça de façon assez étonnante dans des médiations. Au début, quand j'étais jeune médiateur, j'avais forcément envie d'essayer que les gens s'entendent. Or, quand on a deux personnes qui rentrent en médiation, il y en a une qui est plus avancée que l'autre vers la solution. Il y en a une qui a vraiment envie de résoudre et l'autre, elle attend de voir, elle vient, mais elle ne sait pas. Et si nous, on a envie que ça se résolve, la personne qui a moins envie, elle va sentir qu'on est du côté de l'autre, donc on n'est pas neutre, on n'est pas indépendant, et ça peut être une occasion d'échec de la médiation. Et donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus respectueux des deux parties. S'il y en a une qui veut que ça aboutisse et l'autre qui est pas si pressée, moi, je ne suis pas pressé pour que la médiation aboutisse.
Ouais, c'est le niveau de timing. Parfois, le conflit n'est pas mûr des deux côtés. Pour être abordé et puis pas pour être résolu non plus.
Voilà, il est
en même temps.
Oui, c'est ça.
Avant qu'on parte un peu plus sur le fond, en tout cas ce que je considérais comme le fond du livre, à un certain moment où tu parles, en tout cas, le titre, c'est « Le mythe de la neutralité ».
Alors, la neutralité, je voudrais simplement dire une chose. Quand il y a une situation de… la médiation classique, elle marche bien quand on a deux personnes qui sont à peu près égales de force. Mais dès qu'on a, je ne dirais pas de la violence conjugale, mais dès qu'on a une personne qui est en situation plus forte que l'autre, les outils classiques de médiation ne sont pas forcément bons. Et la neutralité, si on est neutre, on laisse le plus fort écraser le plus faible. Et cette neutralité-là, elle est normale en médiation, c'est normal d'être neutre, mais ce n'est pas toujours normal de laisser le plus fort écraser le plus faible. Et donc, je dis OK pour la neutralité, mais il faut regarder à deux fois.
Et c'est juste. Et puis, ça me fait aussi penser à ce que tu dis juste avant par rapport à la maturité du conflit, que peut-être l'une des deux ne te considère plus comme neutre. Je pense que la neutralité, c'est d'un côté comment moi j'agis en tant que médiateur ou médiatrice, mais peut-être plus important, c'est la perception des autres vis-à-vis de moi. Même si moi je pense entre guillemets on peut pas l'être parfaitement neutre, mais au cas où théoriquement, mais si l'un des deux ne me considère pas comme neutre, ben moi je peux être parfaitement neutre dans ma posture, dans tout. Si l'autre ne me croit pas, enfin, elle sert à rien, la neutralité.
Ouais. Tout à fait.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup parlé dans ton livre, c'est tu parles des quatre vents de la médiation, et puis je crois comprendre que tu as rassemblé, composé différentes approches de différentes, je pense qu'on peut dire, philosophies ou cultures, de différents orients, de différentes origines. Qu'est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Comment ça colle? Ou peut-être déjà, quels sont ces quatre vents? Est-ce que tu peux les donner un titre à chacun des vents? Ou est-ce que c'est trop large? Est-ce qu'on peut les définir individuellement?
D'accord. En fait, tout ça est né à l'occasion d'une formation que je faisais à l'IFOMEN, donc l'Institut de formation et de médiation en France. Et lors de cette formation, j'avais découvert au bout de quelques jours qu'en fait, presque tous les outils qui nous enseignaient venaient des États-Unis. Il y avait l'analyse transactionnelle, de la gestalt, de la systémique, enfin bon, tout venait des États-Unis. Et à un moment donné, j'ai pris un peu de recul et j'ai dit à mes formateurs, mais je trouve ça bizarre, pour moi, quand je voyage aux États-Unis, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une terre de médiation. Pour moi, l'Afrique est une terre de médiation, mais pas les États-Unis. Pourquoi vous nous enseignez des méthodes américaines et pas des méthodes africaines? Ils m'ont répondu, bah, parce qu'on ne les connaît pas. J'ai dit, mais moi, je les connais. Je suis allé 100 fois à peu près en Afrique et j'y ai travaillé. J'ai été une centaine de fois là-bas, donc je connais bien ces outils. Et du coup, j'ai dit à mes formateurs, bah, si vous voulez, j'organise un voyage pour que vous puissiez les connaître. Ils ont dit oui. Moi, il n'y en a aucun qui est venu. Et après, j'ai gagné un contrat où j'ai travaillé à la Banque africaine de développement à Abidjan. Et donc, j'en ai profité pour lancer, à l'époque, ça s'appelait les semaines euro-africaines de la médiation et du changement. Donc, j'ai monté 5 colloques à Abidjan. Aujourd'hui, ça s'appelle les palabres de la médiation agile. Donc, le 19 de chaque mois, j'invite les médiateurs de plusieurs continents à intervenir. Donc, la prochaine fois, ce sera le 19 juillet, c'est mercredi, c'est après-demain.
Je recommande vivement, d'ailleurs, on peut le trouver comment? Bon, je mettrai le lien dans le descriptif, mais on peut le trouver comment?
Ben, c'est sur mon site energetique.fr et l'onglet médiation.
Ok.
HTTPS energetique, energetic.fr/médiation, sans accent. Donc là, il y a les palabres qui sont annoncés pendant toute l'année prochaine. Donc, on a le. Voilà. Donc, en tout cas, je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, il y a une technique de médiation qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Personne ne le connaît. Ça a été proposé par le Niger et ça a été accepté par l'UNESCO. Ça s'appelle l'Alliance à plaisanterie. Quand j'en parle en Afrique de l'Ouest, les gens disent, ah, mais bien sûr. Pour eux, c'est une base de technique d'apaisement des conflits, ça a évité des guerres. Mais c'est des choses qui ne sont pas connues et qui ne sont pas enseignées. C'est un des outils. Puis en fait, donc pour moi, les outils américains, notamment le process work, c'est des choses que je considère comme étant solides et utiles. Les méthodes européennes du Nord, il y a plein de choses qui sont belles. L'Afrique, j'en ai parlé. Et puis nos amis asiatiques ont quelque chose d'une autre approche des conflits. Il ne faut pas perdre la face. Enfin, et je me suis dit que sur les 4 continents, il y avait quelque chose à tirer. Aux États-Unis, ils ont beaucoup conseillé ça. Pour moi, c'est beaucoup des personnes, certaines d'origine juive, qui ont vécu la post-guerre en disant comment éviter que des telles choses se reproduisent, qu'on a inventé. En Europe, on a toute la tradition grecque quand même, avec la Grèce, il y avait déjà tout un tas de médiations. Il y avait plein déjà de médiations à cette époque. Et puis en Afrique, j'en ai parlé, et en Asie, il y a toute une question de la sagesse bouddhiste, etc., qui sont des méthodes qui travaillent sur les conflits. Et je me suis dit, ben, c'est dommage de ne pas se priver de ces 4 types de sagesse quand on a des questions difficiles. Voilà, donc dans mon livre, j'en ai référencé 40 outils que moi j'utilise en médiation. La deuxième édition, on en aura toujours 40, mais ils vont changer un petit peu parce que j'en découvre de nouveaux de temps en temps. Il y en a que j'ai plus important que d'autres.
C'est vraiment impressionnant. Ouais. Si j'essaye de résumer en mes mots et de façon forcément un peu simpliste, mais est-ce qu'on dirait que l'Ouest, donc genre États-Unis, ça serait plutôt... orienté résultat, peut-être, ouais. Et puis l'Afrique, le Sud, ou le Sud, on va dire, ce serait plutôt transformation,
sens plutôt focalisé. Le Sud, en fait, on a entre l'Occident et le Sud, on n'a pas la même notion anthropologique de l'homme. Nous, on a une vision, les États-Unis et nous, on a, enfin, l'Amérique du Nord et l'Europe, on a une conception, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. Donc, l'individu a une grande importance. Et en Afrique, c'est la communauté qui a de l'importance.
Une collective.
Donc, par exemple, dans les techniques de palabres, un jour, j'étais à l'université à Lomé et on m'a dit... donc, je devais faire une conférence sur la médiation dans le cadre de l'OADA parce qu'ils ont un acte uniforme de l'OADA qui est bien avancé, qui est un peu différent de celui de l'Union européenne. Et j'ai posé la question à un ancien bâtonnier de Lomé en disant... mais la médiation traditionnelle africaine, la palabre, est-ce que c'est plus de l'arbitrage ou de la médiation? Il réfléchit, il dit, mais chez nous, l'arbitrage et la médiation, c'est pareil. Je dis, comment c'est possible? Ben, il dit, oui. Quand quand un chef traditionnel va faire un arbitrage, ça ne lui viendrait pas à l'idée de faire un arbitrage si les gens ne sont pas déjà d'accord sur la solution. Donc, ils vont parler jusqu'à ce que les gens sont d'accord et après l'arbitre. Et en même temps, si les gens se mettent d'accord sur un conflit, ça ne leur viendrait pas à l'idée de signer un accord sans d'abord aller voir le chef de village pour dire, voilà, chef, on a fait cet accord, est-ce que vous êtes d'accord ? Et donc, dans les deux cas, on a le même processus, que ça soit arbitrage ou médiation. Et en fait, il se fiche pas mal de savoir qui a raison ou tort. Ce qu'ils veulent, c'est que la communauté dure. Donc, c'est pour moi, tout le Sud, c'est tout l'apport de cette approche communautaire qu'on a très peu en Occident. Et ça, c'est très important.
Ouais, effectivement, on est beaucoup plus focalisé sur, sur l'individu, pas sur le collectif. L'Est, donc tu as dit, ça serait... Comment tu as dit ?
J'ai parlé de la sagesse bouddhiste, mais on a aussi tout le chamanisme. Donc, il y a un lien avec les esprits, il y a un lien avec la transcendance. On a ça en Afrique aussi avec les animistes. Mais il y a surtout l'aspect du chamanisme. L'homme ne se suffit pas à lui-même. Il faut voir aussi qu'est-ce que pensent les esprits. Alors, moi, je dis qu'est-ce que penseraient nos descendants dans un conflit ? Qu'est-ce que penseraient nos ancêtres s'ils nous regardaient faire ?
C'est une question temporelle qu'on rajoute ?
Moi, je la rajoute de façon temporelle parce que les Occidentaux, beaucoup croient à la transcendance, certains n'y croient pas du tout, mais on a des relations différentes. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas. Je veux dire, donc c'est un sujet, en tout cas en France, c'est un sujet tabou. Et donc, quand je parle de dire qu'est-ce que penseraient nos ancêtres et qu'est-ce que penseraient nos descendants, quelque part, c'est une autre manière de contourner le tabou pour parler de ce monde qui n'est plus notre monde à nous aujourd'hui, mais qui est un monde qui est plus dans l'éternité que nous, dans un moment passager de la vie humaine.
Le monde caché, mais qui nous entoure.
Donc, cette sagesse, les bouddhistes sont aussi dans un détachement. Comment prendre de la distance par rapport au conflit, cet aspect-là aussi. Donc, il y a beaucoup d'inspiration des pays de l'Est qui me semble extrêmement utile en médiation.
Absolument, oui. Ouais. Et le Nord, alors ?
Le Nord, l'Europe, on a une longue culture. Je pense aussi à tout ce qui est domaine de l'intelligence collective. On a beaucoup travaillé sur ces questions. Il y a plein de choses qui naissent autour de notamment de l'intelligence collective. Bon, les neurosciences qui sont en train de se développer maintenant, je ne sais pas toujours pouvoir dire c'est exactement le nord ou l'ouest, mais on a par exemple, rien que l'apport des neurosciences est important. En Europe aussi, on a le pays de, c'est là où sont originaires Freud, c'est là où est originaire Jung. Donc il y a toute l'approche psychanalytique avec l'inconscient, tout le monde de la thérapie. Donc on a des apports en Europe qui sont particulièrement importants pour la médiation agile. On les utilise en partie en médiation, mais on peut aller plus loin.
Donc maintenant, pour la médiation agile, comment tu fais ? Tu composes tout ça ou tu regardes qu'est-ce qui te semble le plus utile pour une situation donnée ou comment tu procèdes ? Tu prends l'outil qui... C'est toujours un peu l'exemple que je donne avec le tournevis, hein, parce que d'habitude, on a un tournevis, disons numéro 3, et puis toutes les vis doivent s'adapter à mon tournevis. Non, en fait, normalement, c'est l'inverse. Il faut que je prenne le bon tournevis selon la vis.
Alors, la première chose que je dirais...
C'est l'ingénieur qui parle avec les tournevis.
Oui, ça me parle bien. Ça me parle bien. Tiens, pourquoi ça s'est barré ce truc-là ? C'est ça. Donc, pour moi, la médiation agile, ce n'est pas quelque chose de fini et d'inventé en disant, voilà, c'est ça. C'est une espèce de logique parce que plein de gens... Je rencontrais l'autre jour Jean-Édouard Robiot-Dupont. Il a inventé plein de méthodes avec les techniques d'impact, avec des jeux. Je vois Carole Friedrich à Strasbourg. Enfin, je vois plein de médiateurs qui ont inventé des méthodes ou qui ont adapté des méthodes pour résoudre. Et pour moi, la médiation agile, c'est d'abord le socle de la médiation. On n'est pas en dehors. Et ensuite, on peut. C'est quelque chose qui est une démarche où plein beaucoup de personnes, j'imagine que c'est ton cas aussi, vont chercher, tu vas chercher des orateurs, des intervenants qui ont un apport à la médiation et dans certains cas. Donc, pour moi, la médiation agile, c'est un peu cette démarche et ça change beaucoup de choses. Je vais donner un exemple avec, par exemple, le process work. Quelle est la posture du médiateur? Alors, moi, j'apprends dans les écoles, le médiateur, il intervient sur le processus, mais il n'intervient pas sur le contenu. Bon, c'est ma base. Mais moi, des fois, par exemple, quand il y a immédiatement dans un groupe où on sent qu'il y a une emprise d'un groupe fort sur un groupe faible, moi, je commence à bouillir intérieurement. Donc, j'ai envie de dire, je n'ai plus envie d'être médiateur. Donc, quand il y a un co-médiateur, je demande aux participants, est-ce que vous acceptez que pendant un moment, je quitte le rôle de médiateur pour jouer un rôle de participant, comme on fait par exemple au théâtre de l'opprimé. Ils ont fait ça beaucoup en Amérique du Sud, au moment des oppressions des juntes militaires et compagnie. Donc, on demande aux participants, est-ce qu'ils sont d'accord que pendant un petit moment, je sois plus neutre et je sois un intervenant? Et je le fais. Et ça peut produire. Donc, je viens. Tiens, on était à Lyon au Dialogue en Humanité et on a parlé d'un conflit. On était en groupe. On travaillait sur un conflit d'une personne qui avait essayé d'implanter la fresque du climat dans une entreprise.
Ouais.
Et donc, il y avait plein de rôles qui s'exprimaient. Moi, j'étais un des facilitateurs et à un moment donné, j'ai envie de. Donc, la personne discute. Son problème, c'était que les gens de l'entreprise ne venaient pas à la fresque du climat. Et puis, elle a dit un mot en disant, mais moi, finalement, c'est l'entreprise, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est de développer la culture environnementale. Donc là, du coup, je me suis senti concerné. Donc, j'étais plus dans le rôle de facilitateur. J'ai demandé aux gens, je suis arrivé en disant, moi, je suis dans l'entreprise. Si tu me dis que tu te fiches de l'entreprise, ne t'étonne pas que moi, je me fiche du climat. Alors, et donc, ça a changé la polarité du groupe parce qu'elle avait parpé, elle était très, très, c'était très, très intellectuel. Mais là, j'ai vu qu'elle parlait du sentiment. Je me suis mis au même niveau pour répondre au même niveau. Donc, ça fait bouger les choses. Puis après, j'ai revenu dans mon rôle de médiateur. Mais des moments, il y a des moments clés où c'est important de changer. Et puis même à un moment donné, je lisais Loïc Leméauté, qui est un très grand médiateur environnemental pour moi. Il explique que la méthode environnementale française, encadrée par la loi, etc., elle ne marche pas dans certains cas, parce qu'on définit le processus, et donc le médiateur le met. Mais quand on a des mouvements, des ONG écologistes, etc., ou des habitants, comme on a plein de cas sur les bassines, où les populations sont très fâchées, si on applique le protocole de l'État et des directives européennes, les gens ils vont se sentir piégés par le pouvoir de l'État. Et eux, ils sont contre parce qu'ils se rendent compte que l'État, il favorise les riches, sont toujours plus riches, on pille l'environnement, il y a des tas de procès contre l'État qui fait de l'inaction environnementale. Donc, si on applique le processus de l'État, ce que ferait un médiateur normal, il y a tout un tas de gens qui vont se sentir en opposition. Et donc, il y a d'autres méthodes qui consistent à dire, notamment Loïc Leméauté, qui dit, moi, quand c'est comme ça, je n'impose pas le processus, je laisse les participants décider comment va être le processus. Donc là, dans ce cas-là, le médiateur ou le facilitateur ne va pas être, il va pas être, comment dire, en position haute sur le processus, il va être en position basse sur le processus. Donc en fait, oui, la règle, c'est bien, on est en position haute sur le processus, en position basse sur le contenu, mais moi je dis, on peut faire des exceptions en respectant la vie des gens, l'accord, et les règles de déontologie. Si on quitte le rôle de médiateur pour le rôle de coach pour accompagner une personne, quand on fait des entretiens individuels, il faut l'accord de la personne, mais on peut changer de posture avec l'accord des gens et en respectant les codes de déontologie des professions respectives.
Alors moi, je suis complètement d'accord avec cette idée. Je crois qu'on peut tout à fait même renforcer une partie plus faible parce que finalement, si on veut avoir un bon résultat, c'est dans l'intérêt de tout le monde, des deux parties. C'est que s'il y a un qui écrase l'autre, on n'aura pas un résultat satisfaisant, on n'aura pas de conclusion, on n'aura pas de résultat tout court. Si on reste dans la logique du volontaire, la partie qui se fait écraser, elle ne signera rien du tout à la fin.
Donc,
Oui.
si on veut avoir un résultat qui tient la route pour les deux, donc pour la médiation, pour avoir un bon résultat, il faut que les deux soient plus ou moins équilibrés. Donc, renforcer une partie, pour moi, ça fait presque partie de la logique de la chose, hein, pour
Sauf que
qu'on
là, on n'est
puisse.
pas neutre. Alors, on peut le faire d'une autre manière. Une des techniques que j'utilise volontiers, il y a beaucoup de médiations où on a des gens, mettons des gens qui ont une grande culture, qui savent bien parler, qui sont orateurs, qui sont avocats, qui sont des hommes politiques ou des femmes politiques. Et puis de l'autre, on a quelqu'un de la campagne qui a un bon sens extraordinaire, mais qui n'aime pas trop parler. Et donc, moi, ça m'arrive, par exemple, des fois, de dire, bon, stop, on change de terrain. On va parler des émotions. Et là, on va se retrouver dans un domaine où la personne qui était en position extrêmement dominante, qu'est-ce que vous ressentez là? Elle va se sentir, elle a l'habitude de raisonner toujours avec sa tête, mais si on déplace sur un autre registre, on va rétablir des rapports de rang différents.
Ouais, ce qui est passionnant, c'est que, comme tu l'expliques, toi, en faisant cela, en sortant de ton rôle pendant mettre en parenthèse, c'est une action sur le processus, hein, comme je dirais. Et c'est vrai que c'est intéressant, je n'ai jamais réfléchi à ça. Moi, ce que je fais, moi, parfois, c'est ce que je disais avant, c'est renforcer une partie, mais plus à travers les outils. Pas sur le processus, mais typiquement, tu vois, si je trouve qu'il y a une partie. Et puis elle veut dire quelque chose, mais elle n'y arrive pas parce que, je sais pas, elle a trop peur ou que sais-je. Je peux me mettre à sa place et puis dire, est-ce que je peux dire quelque chose à votre place? Et
Voilà.
après, vous me dites si c'est juste. Donc je parle à sa place, mais c'est, oui, c'est un outil, c'est 1 minute, quoi. Ouais, c'est passionnant. Ouais, moi, je vois pas ça. Tu disais que on est plus neutre. Je suis pas sûr parce que. Tu penses? Parce qu'on est plus neutre au niveau de ma propre posture, au niveau de la perception de l'autre partie, à quel niveau?
Non, je ne dis pas que tu es plus neutre, je dis que c'est. Par exemple, il y a certaines médiations où le médiateur il doit se retirer en disant là, il n'y a pas de respect de la personne, où je sens qu'il y a une emprise, moi, j'accepte plus de faire la médiation.
Une manipulation ou de ce type. Ouais.
Donc, quand on fait ça, je ne l'ai jamais fait, ou du moins, si, je l'ai fait quand même de temps en temps, mais je l'ai. Là, ce n'est pas une position neutre, c'est on affirme sa position à soi. Et je
Ouais.
pense que ce n'est pas des choses qu'on fait souvent, mais on peut sortir de la neutralité en disant, là, je considère qu'il y a une. Enfin, moi, je fais signer. Enfin, pour moi, au départ, dans la convention de médiation, je demande aux gens s'ils sont d'accord sur un principe d'égalité. Et donc, s'il y en a un qui a clairement une emprise sur l'autre, à un moment donné, je peux dire tout simplement, je considère que là, il n'y a plus le principe d'égalité n'est plus respecté. Je vous demande de le respecter. On était d'accord. Vous ne devez pas vous mettre en position haute. La CNV dira en mode chacal ou tout ce qu'on voudra. Donc là, on reste parfaitement neutre. Mais des fois, si ça va trop loin, on peut dire, bon, mais moi, j'accepte pas ça parce que je considère qu'il n'y a pas d'égalité. Je veux pas. Je veux quitter la médiation si ça continue comme ça. Par
Ouais.
exemple. Voilà,
Pour
enfin,
faire respecter les
je ne vais pas
règles.
contre le principe de neutralité, mais je dis qu'il faut le regarder un petit peu.
Sur les quatre vents de la médiation. Est-ce qu'il y a l'un des quatre qui te souffle un peu plus doucement que les autres? Est-ce que tu as une préférence pour l'un ou l'autre?
Moi, je suis beaucoup dans l'Afrique, j'en ai parlé un petit peu. J'ai une technique, par exemple, j'ai. Oui, non, c'est pas une technique, c'est un moment de la médiation. J'ai beaucoup travaillé sur des gens qui venaient me voir parce qu'ils étaient en conflit. Mais l'autre en face, il n'avait pas envie de venir en médiation. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu coach. Et donc, pour moi, il y a un travail, je dirais, de pré-médiation. Comment faire quand il y a une partie qui veut une médiation et l'autre qui ne veut pas? Et
Ouais.
là, j'ai inventé une technique que j'appelle les ronds dans l'eau, mais j'ai appris ça en Afrique. En Afrique, il y a du marchandage à tous les coins de rue, il y a les griots, on baigne dans une culture. Donc moi, la technique des ronds dans l'eau, j'ai peut-être fait 20 missions en Afrique ou 30, j'ai zéro impayé. Et quand il y a un ministre qui ne veut pas me payer, je travaille avec des gouvernements, quand il y a un ministre qui ne veut pas me payer ou quand la présidence de la République d'un pays ne veut pas me payer, il y a une inégalité de force. Et donc j'ai essayé d'inventer des méthodes et maintenant, je suis payé dans 100% des cas. Et ces méthodes, j'ai pris des techniques africaines pour inventer l'émeraude dans l'eau, c'est-à-dire que je réclame une fois, je demande un peu plus, et je mets de plus en plus de gens dans la boucle, si bien qu'à la fin, parce qu'en Afrique, dans certains cas, de refuser de payer un blanc et d'arriver de ne pas payer, c'est considéré comme un juste retour de la colonisation. Donc, c'est pas du tout, ils ne sont pas coupables. Ils trouvent que c'est une bonne action de ne pas payer un blanc quand il a bossé. Bon, il faut savoir, c'est dans la culture. Je n'ai pas dit qu'ils le font tous. Donc, comment se défendre contre ça? Ben, je mets de plus en plus de gens en copie. Et à un moment donné, la personne se dit, je m'en fous de payer ce blanc ou de ne pas le payer. Mais par contre, si ma réputation dans mon groupe est entachée, ça, je ne peux pas accepter. Donc, ils payent. Voilà des techniques que j'ai utilisées. Je l'utilise là pour me faire payer, mais en ce moment, je travaille avec depuis à peu près un an, une femme qui était en couple avec un Africain et qui lui a menti, qui avait d'autres enfants là-bas, une autre femme là-bas. Enfin, elle a eu beaucoup de dettes et donc le gars, il était de mauvaise foi, évident. Donc, j'ai dit, c'est même pas la peine de causer avec lui. Mais c'était une grande famille, donc j'ai commencé à toucher la famille, le père qui est chef d'entreprise, l'oncle qui est un homme politique. Donc, en passant par là, petit à petit, ils ont vu que ça sentait mauvais, donc ils ont préféré venir en médiation. Ils ont déjà tout remboursé, les cautions qu'elle a données pour des apparts. Donc, petit à petit, on y arrive.
Oui, alors moi, je connais surtout le Maghreb. Et je dirais aussi, ils ont une grande culture de la médiation. Ça va tout naturel. Oui. La différence que je vois, c'est que... Ça dépend un peu où on est. Hein. Si on prend le Maroc, je pense à Casa, c'est un peu plus ouvert. Après, vers le sud, c'est un peu plus fermé dans le sens, pas négatif, mais dans le sens que typiquement, tout ce qui est familial, c'est tellement ancré dans la culture, c'est que s'il y a un conflit entre deux, il y a forcément un médiateur qui intervient. Mais ce n'est pas un tiers inconnu. Hein, tu ne fais pas venir quelqu'un que tu ne connais pas, tu veux le payer. Puis,
ça peut être le cadi au niveau de qu'applique la charia, ça peut être plein de gens.
Oui, ou c'est l'oncle envers qui les deux font confiance. Soit ça reste en famille, ou si c'est le cadi, c'est que c'est déjà un peu du juridique. Mais si ce n'est pas encore à ce niveau-là, il y a de toute façon quelqu'un qui intervient. Ça, c'est d'office. Hein,
tout à fait.
Après, nous, en Suisse, on est beaucoup sur éviter les conflits, hein, selon le modèle Killman, qui est nouveau américain. Mais là, je les vois très à ce que j'observe moi au Maghreb, c'est que c'est d'office, on va vers une sorte de médiation, mais c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, quelqu'un qui a déjà la confiance. C'est pas, voilà, on ne va pas raconter notre vie à un inconnu.
Oui, ou c'est quelqu'un qui est reconnu par la communauté. Parce qu'il y a
ou
la
par la communauté, oui. Ouais,
nous, on ne le connaît pas forcément, mais c'est quelqu'un qui est reconnu par la communauté.
C'est ça.
Mais il y a des méthodes traditionnelles comme le Tajmat en Algérie et au Maroc, il y en a d'autres. Et ces méthodes-là, je pense, ont quelque chose à nous inspirer dans certains cas.
C'est aussi dans ton livre, c'est sur le Maghreb ?
Oui, bien sûr. Okay. Oui, le Tajmat, ben, je le fais de temps en temps dans les médiations agiles. On fait venir les palabres de la médiation agile. Je prends des thèmes tous les mois et j'y ai toujours des médiateurs africains, donc parfois du Maghreb, parfois d'ailleurs.
Ah, super. Il y a aussi, j'ai encore noté deux choses. Je ne sais pas si c'est dans ton livre, peut-être ça t'intéresse, sinon c'est le sulha. C'est sulha. Bah, c'est un mot arabe pour plus ou moins traduire par réconciliation. Mais il y a toute une méthode qui a été développée en Palestine. Il existe un livre, mais en allemand. Je dois l'avoir là juste devant moi. Je vais le chercher après. Je t'envoie une copie.
Oui, bah volontiers. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Mais tu me demandais s'il y avait un autre sujet que j'avais envie d'aborder. Il y en a un. On parle beaucoup de la CNV. C'est un outil très puissant dans les entretiens individuels qu'on invite à faire pratiquer aux personnes. Mais il y a tout un autre mouvement qui dit le contraire. Et qui dit le contraire, qui dit différemment. Et notamment, je pense que j'aimerais parler aujourd'hui de la médiation humaniste, parce que celle qu'il a inventée, Jacqueline Morino, est décédée le 16 juillet. Et pour moi, donc, c'est une des sources d'inspiration. J'ai travaillé en prison, etc. Et c'est dans sa mouvance. Et pour elle, ce qui est important, c'est qu'elle est formée à la méthode grecque. On est dans les sources du Nord, dans la philosophie grecque, dans l'archéologie, dans le théâtre grec, où il y a la catharsis. Et la catharsis, nous, qu'on appelle le point de bascule, pour elle, comme pour la tragédie grecque, il faut que la tension monte. Elle va faire monter la tension, contrairement à la CNV qui parfois la fait descendre, pour que la personne connecte sa souffrance et puisse exprimer son cri. Donc, que ce soit d'ailleurs aussi bien l'infracteur que la victime, on est à la fois les deux. Donc, chacun va exprimer son cri et ça favorise le point de bascule où l'autre va comprendre la souffrance de l'autre, même s'il n'est pas d'accord. Et là, les gens vont se rejoindre et ça va faire le point de bascule. Donc, j'aimerais au moins cette émission reconnaître l'apport de Jacqueline Morino avec la médiation humaniste qui est une des sources importantes de la médiation.
Absolument, ouais, merci. Merci, c'est important. Oui, ça c'est effectivement deux théories aussi. Moi j'avais vu ça, moi je suis d'origine germanophone. J'ai aussi en allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Thomas ou quelque chose, il a une approche qui s'appelle Klärungshilfe, donc l'aide à la clarification. Et puis lui, typiquement, il refuse les séances en individuel avant l'entrée en médiation. Et pourquoi? C'est parce que pour lui, l'émotion de la première rencontre, il dit j'en ai besoin, elle doit être là. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire avec la catharsis. En fait, parce que quand on fait des médiations individuelles avant la rencontre, souvent c'est un peu pour faire baisser la tension, pour déjà filtrer un peu les choses, etc. Et lui, il dit non, justement pas, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin que l'émotion soit là dans la première rencontre. Il ne faut pas l'évacuer avant, justement. Ça me fait penser à ça, oui. La catharsis.
Une de mes sources puissantes, c'est aussi un Américain qui s'appelle Adam Kahn, qui a travaillé donc à la Shell. Il s'occupait du service prospective dans la mouvance de Jaworski et d'autres. Et pour lui, donc un des éléments importants, bon, il y a la méthode des scénarios, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, l'amour et pouvoir. Oui, il racontait un exemple d'une médiation qu'il a faite en Colombie avec le président Santos, il n'était pas encore président, au moment de la négociation avec les FARC, le gouvernement, les militaires et tout. Et quand il a voulu mettre les gens autour de la table, il fallait les convaincre. Ça peut prendre beaucoup de temps dans des pays où il y a des très fortes tensions. Et il y en a un qui lui dit, qui était des FARC, et qui lui dit, mais comment voulez-vous, pourquoi voulez-vous que j'aille m'asseoir à la même table que l'autre qui a essayé 5 fois de me tuer? Donc là, on était dans les dialogues pré. Et Adam Kahn lui a répondu, ou Santo, je ne sais plus, eh ben c'est pour qu'il n'essaye pas une 6e fois. Et de fait, après, la médiation lui a sauvé la vie.
Ah, wow. Ah ouais, c'est...
Donc là, c'était des médiations.
C'est fort, quoi.
Ouais.
OK. On touche gentiment à la fin. Est-ce que, par rapport à la médiation agile, pour la mise en œuvre pratiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui la différencie de la médiation, je veux dire, un peu plus classique, ou à quoi faut-il faire attention? Ou quelqu'un qui voudrait commencer à pratiquer, il consulte déjà dans le livre, je mettrai le lien en bas. Et puis à partir de là, comment mettre en œuvre la médiation agile?
En fait, la médiation agile, ce n'était pas le titre du début, c'est ce qui s'est imposé à moi comme un peu le résultat de ce que j'avais vécu. Et à la fin, j'ai essayé d'en donner une définition. Mmh. Et je vais essayer de la lire. D'abord, la médiation agile, c'est d'abord pratiquer la médiation telle qu'on nous l'enseigne. Hein. Ce qu'on apprend en médiation, ce n'est pas pour l'enlever, c'est le cœur. Mmh. La deuxième chose, c'est aussi l'art d'accueillir les 4 vents de la médiation, parce que dans tous les continents et dans tous les siècles, il y a eu des apports et ce serait dommage de s'en priver et de les oublier.
Mmh. D'ailleurs, je m'excuse, pardon, pour le deuxième. En fait, à qui de faire ça? Parce que c'est ce que je dis souvent à mes collègues aussi du Maghreb. Je dis, mais vous avez tellement de ressources. Faites quelque chose, quoi. Développez-les, mettez-les en avant, faites-les voir. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bon, toi, tu as le mérite d'avoir fait avec tes engagements. Mais il n'y en a pas assez, en fait. Qui peut faire ça?
Je veux dire, pour moi, il y a des vraies sources. Enfin, je veux dire, je l'ai décrit dans le livre. J'ai essayé d'être un peu analytique, les techniques de marchandage, les techniques de griots, enfin toutes les griots. Prenons l'exemple des griots. En Afrique, les médiateurs, ça peut être des griots. Qui c'est les griots? En Europe, c'était les troubadours. Aujourd'hui, c'est les rappeurs, les slameurs. quand il y a un conflit, c'est eux qui vont décrire avec leurs mots la situation de personnes opprimées. Et ça crée le fait que les personnes opprimées se sont exprimées par quelqu'un, en l'occurrence le rappeur, ça va faire baisser la tension. S'ils ne sont jamais exprimés, ils ne peuvent jamais être entendus, à un moment donné, ça va donner du terrorisme. Mais s'il y a quelqu'un qui défend leur point de vue, par exemple, par le rap, donc c'est des choses qui se font. Et quand tu dis à la place, tu dis je me mets parfois à la place de la personne pour raconter, pour exprimer ce qu'elle ne sait pas raconter, tu es dans ce rôle-là du griot, du poète qui va donner le point de vue de l'autre, parce que lui, tu as senti ce qu'il vivait, mais toi, tu as les mots et lui, il ne les a pas. Donc voilà, donc je veux dire, tout se peut le faire, simplement il faut connaître d'autres techniques, faut avoir voyagé. J'ai parlé des pays, mais en fait il n'y a pas que les pays. Moi j'ai étudié à l'ESSEC, une école de commerce, la conduite du changement. Il y a plein d'outils, et quand on est en médiation, il y a une partie qui va être butée, qui ne veut pas avancer, mais ça c'est de la conduite du changement. Donc il y a des techniques, on peut prendre un médiateur, il peut, s'il a étudié la conduite du changement, il peut prendre des techniques. En thérapie, il y a des personnes qui, à un moment donné, bon, d'abord, on dit qu'il y a un pourcentage non négligeable de personnes en Europe et partout qui ont des difficultés psychiques. Et on voit bien, il y a des gens, on dit psychorigides ou tout ce qu'on voudra, ou qui se laissent écraser. Mais quand on rencontre quelqu'un comme ça, les outils de thérapie, ça peut aider quelqu'un qui est en difficulté dans la médiation à retrouver sa force, par exemple avec des séances individuelles. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, en médiation, de dire à un chef d'entreprise, je vous conseille de faire, ou deux associés d'entreprise qui se disputaient, ma collègue médiatrice, elle leur a dit, écoutez, c'est pas la peine de continuer là, je vous invite à faire 3 séances de thérapie ou de coaching, et on se reverra après. Donc on va utiliser des techniques de thérapie, de coaching, donc tous ces mondes-là peuvent être utiles pour pouvoir permettre à deux personnes ou deux groupes qui sont en conflit de progresser vers une situation plus paisible. Ça, c'était le deuxième, donc accueillir les quatre vents de la médiation. Le troisième, c'est l'art de se faire petit ou grand, pauvre ou riche, intellectuel ou artisan, en étant avec une égale aisance, parce que quand il y a deux personnes qui sont de rangs différents, si on a vécu les deux, ce qui est notamment mon cas, moi, je sais que chez la personne qui est apparemment écrasée, il y a autant de valeur que dans l'autre. Je le sais. Donc, je suis capable de, en moi, je suis capable de me faire l'un ou l'autre. Donc, la médiation agile, c'est d'être capable d'accueillir finalement tout le monde. La troisième, c'est d'être capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe en médiation. On dit que dans la médiation, on est dans l'arène. Mais je pense à la caverne de Platon où il voit que des ombres. Il y en a un qui sort et qui voit la lumière, qui voit les couleurs. Ben, le médiateur, des fois, il est capable de, la médiation agile, il est capable de dire, ils sont en train de résoudre la solution dans un cadre où on ne remet pas en cause la corruption, où on ne remet pas en cause l'oppression. Et donc là, à un moment donné, on va voir qu'en fait, il y a des règles sur lesquelles tout le monde est implicitement d'accord et que ces règles sont fausses. Le médiateur agile, il peut regarder ça. J'ai déjà dit le cinquième, c'est l'art de sortir du cadre de la médiation stricte, par exemple en prenant un rôle avec l'accord des gens et en respectant les règles de ce rôle. L'autre chose, c'est l'art d'adapter les tarifs. Quand il y a un riche et un pauvre, si on les fait payer le même prix, on n'est pas neutre, on fait l'égalité, mais on ne respecte pas les différences des gens. Et donc, à un moment donné, pour moi, il faut pouvoir arriver à faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de la médiation et pas seulement les riches. Et enfin, ce que je disais au départ, la médiation agile, ce n'est pas quelque chose de défini du passé, c'est quelque chose qu'on est en train d'inventer ensemble avec d'autres.
C'est beau, merci pour ce partage, surtout le dernier, qu'on invente avec d'autres. Donc, tu dis en tant que société, hein, si je comprends bien.
Voilà, moi j'ai été... On a décidé de faire ce lien. J'avoue que j'aime beaucoup ton approche et je me dis, tiens, tu as un apport de médiation agile. D'ailleurs, je vais te faire intervenir au Palabre, si tu veux bien.
Ça sera avec plaisir. Hein. Ça sera avec plaisir. Bien, bah, écoute, peut-être avant de conclure, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à partager? Je vais mettre les liens sur, euh, sur ton podcast, donc sur le Palabre, toujours le 19, hein, tu as dit chaque mois le 19.
Ouais, sur mon site médiation. Ouais.
Ton livre, je mets le lien, je mets aussi les liens vers le livre.
Oui, je te verrai deux, trois mots pour le faire. Le mot de la fin, bah, c'est qu'on est vivant et qu'on invente ensemble l'avenir. Oui, ici, le mot de la fin, c'est encore un mot de Mindel. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens s'intéressent plus au conflit qu'à la guerre, parce qu'on a tous envie de fuir les conflits. La guerre, on ne peut pas l'éviter quand elle est là. Mais si on s'intéressait un peu plus au conflit, on aurait peut-être un peu moins de guerre.
Ah, ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est effectivement. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Alain. Merci pour ce partage. Et voilà, je me réjouis de participer au prochain Palabre en tant que spectateur aussi. Et puis de te suivre et puis voir toutes les belles choses que tu vas encore nous produire. Je pense que c'est déjà très riche avec ton. Franchement, ça m'a beaucoup marqué. Justement, en préparant le podcast, j'avais pas encore l'occasion de le lire, mais je vais avec certitude le faire. Parce que ça m'a beaucoup frappé l'idée des quatre vents de prendre. Moi, je suis beaucoup aussi dans la pensée holistique, si on veut appeler ça comme ça, qu'il faut prendre tout ce qu'il y a de bien, de là où ça vient, et puis peu importe où ça vient.
D'accord. Je serais heureux que tu me suives sur un pas, mais moi, je te suivrai sur l'autre pas. Comme les oiseaux de. Je pense aux oies quand elles sont en vol. Il y en a un qui se met devant, puis quand elle est fatiguée, c'est un autre qui change.
C'est ça.
Même s'il n'est pas fatigué. On a tous quelque chose du leadership. Et l'important, c'est que chacun puisse donner sa part. Ce n'est pas toujours le même.
C'est beaucoup plus beau que les oiseaux, mais moi, je pensais à la course à pied. Tu vois, quand tu as un qui prend pendant un moment et puis l'autre, il arrive à suivre, puis après, on s'échange.
Voilà, c'est ça. Ou les manchots, quand il y a le vent froid qui arrive dans l'Arctique, ils sont en cercle. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils se payent le vent. Et donc, ils restent un moment, puis après, ils reviennent à l'intérieur pour se réchauffer. Donc, je crois que... Ah oui, je vais quand même dire un élément final. Boutros Ghali dit qu'il y a la guerre entre l'humanité et la nature. Et ça, c'est pas un médiateur qui peut le faire. Mais j'aimerais que nous, les médiateurs, on contribue à faire la médiation dans cette guerre pour que l'humanité survive. L'autre jour à Lyon, il y en a qui disaient « Oh, la nature, elle va bien. De toute façon, elle survivra à l'humanité. Ouais. Mais j'aimerais mieux qu'on survive ensemble. »
Et puis là, il y a du boulot, sans doute.
Voilà. Merci ce que tu fais.
Merci Alain, merci à toi.
Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.